chacun. Heureusement que je n'ai pas le vertige, pas l'habitude. Et veuillez pardonner ma voix, mais le blizzard dans les rues de Grenoble. Voilà, merci Yves. Et je demande aussi à Yves de rester, de prendre tout à l'heure, il va faire la lecture de ce texte que Michel vient de lire une partie. On était sur la même longueur d'onde sans le savoir, n'est-ce pas, Michel? Donc dimanche dernier, Charlie nous a parlé du manque d'accueil que nous avons réservé au Sauveur qui est venu sur la terre. Et aujourd'hui, eh bien, je veux encore revenir sur cette venue de notre Seigneur Jésus-Christ qui a marqué le monde. Quand on réfléchit simplement, quand on est en 2011, après sa naissance, avec une petite erreur de 3-4 années, pense-t-on, d'évaluation, donc ça fait à peu près 2007 ans, 2008 ans que le Seigneur Jésus est venu sur la terre. Donc, on va lire un texte et je demande à Yves, s'il te plaît, si tu veux nous lire dans Ésaïe, chapitre 9, tu pourras mettre le... Merci. 1 à 6.
Ésaïe 9, 1 à 6. Le peuple qui vivait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. La lumière resplendira sur ceux qui habitaient le pays dominé par d'épaisses ténèbres. Ô Éternel, tu fais abonder l'allégresse. Tu fais jaillir une très grande joie, et l'on se réjouit devant toi, tout comme au temps de la moisson, ou comme on crie de joie lors du partage d'un butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, le gourdin de son oppresseur, toi tu les as brisés, tout comme au jour de la défaite de Madian. Toute chaussure de guerrier qui martèle le sol, et tout manteau que l'on a roulé dans le sang, seront livrés aux flammes pour être consumés. Car pour nous, un enfant est né, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale, il sera appelé merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père à jamais et Prince de la paix. Il étendra sans fin la souveraineté et donnera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour.
Merci. Donc ce texte que nous venons de lire est encore d'une grande et totale actualité. C'est probablement pendant le règne du roi Akaz, dont on lit la biographie de 1 roi chapitre 16, période où, après une période de bonheur avec les autres rois, le roi précédent, le roi Ozias en particulier, qui aimait l'Éternel, et bien le roi Akaz s'est éloigné du Seigneur et c'est devenu un temps critique pour le royaume de Juda. Et donc on est dans la période où cette prophétie est écrite de 730-701 avant Jésus-Christ. Et c'est-à-dire 701, c'était le début du siège de Jérusalem. Donc vous pouvez comprendre, par l'armée assyrienne, vous pouvez comprendre que c'était un moment douloureux pour le peuple. Et dans ce texte que Yves vient de nous lire, eh bien nous voyons l'état du peuple. L'état du peuple, c'est les versets 1 et 3. Ce peuple marche dans les ténèbres. Et autant Jésus, c'était pire, puisque le texte de l'Évangile nous dit que le peuple assis dans les ténèbres. Donc de la marche, il a passé à la station assise, c'est-à-dire qu'il est resté vraiment sans force. Quoi. Et c'était vraiment la période où le Sauveur Jésus est né. Ensuite, il habite ce pays où il y a l'ombre de la mort. Et puis, il se joug pèse sur lui. Un des jours qui pesait sur lui, c'était celui aussi de la loi que le peuple était incapable d'accomplir pour plaire à Dieu. Donc il est parlé d'un chapitre 15. puis un bâton qui frappe son dos. Et ce bâton, eh bien, dans 2 Samuel 7, il nous est dit que Dieu frappe par son peuple, le punit par le bâton des hommes. Quand il ne veut plus écouter, Dieu est obligé de prendre la méthode forte pour faire revenir le cœur de son peuple vers lui. Une massue l'opprime, et cette massue, c'était l'armée assyrienne. Et quand on lit les textes, vous avez vu sûrement comme moi, qui parle de ces soldats assyriens qui arrivaient, et bien si, on voit que ce n'était pas des enfants de cœur, comme on dit, ce n'était pas des tendres, et cette occupation était très douloureuse. C'était donc dans le royaume du Nord, donc le royaume d'Israël, qui s'était séparé du royaume de Juda, où était Esaïe, et cette menace et bien, se rapprochait de plus en plus et commençait à encercler la ville de Jérusalem. Donc c'est la déportation, l'exil qui se profile à l'horizon, et dans ce ciel sombre, eh bien, Esaïe reçoit cette magnifique prophétie. Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Un soir d'hiver, un jour, parce que je reviens à une petite histoire, toujours un peu angoissé, à l'approche de la nuit, il y avait une fillette qui demandait avec insistance à sa mère de fermer les volets de sa maison. Et voilà ce qu'elle dit à sa mère, il faut mettre la nuit dehors, dit-elle. Le propos ne manque pas de nous faire sourire, mais c'était cette logique d'enfant. Et c'est bien ce que Jésus est venu faire, Dieu par Jésus-Christ, mettre la nuit qui encercle ce monde, notre société, et soyons francs aussi, nos cœurs. Il faut mettre la nuit dehors. Mais moi, je ne peux pas la mettre tout seul dehors. J'ai besoin de quelqu'un de plus grand, de plus fort que moi. Donc, nous arrivons au verset 2 à cette promesse d'accroissement. C'est quand même curieux. Il y a la toux qui est contre ce peuple. Et puis en même temps, parce qu'en plus, il désobéit au Seigneur. Puis il y a une promesse qui est donnée là au milieu, de rendre la nation nombreuse, de lui donner la joie, de se réjouir, alors que pourtant tout est sombre. Pourquoi cette promesse? Eh bien, parce qu'il y a un fils, il y a un enfant qui est promis, et cet enfant a une destinée royale. Ce n'est pas n'importe lequel. C'est la souveraineté du Messie, celui que Dieu envoie. Et cet enfant né dans l'obscure étable de Bethléem, mis à la dernière place de la société, c'est le roi des rois qui gouvernera le monde un jour. On ne l'a pas encore vu sur le monde entier, mais ça commence déjà, comme on a chanté tout à l'heure, un feu qui commence, qui s'allume dans nos cœurs. J'espère qu'il s'est déjà allumé dans votre cœur. Et si ce n'était pas encore le cas, aujourd'hui est un courant jour où Dieu vous appelle à lui laisser la place, comme l'avait bien expliqué notre frère dimanche dernier. Dans 1 Corinthiens 27, il nous est dit que Dieu a choisi les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes, et cette parole s'applique déjà à Jésus qui est venu en faiblesse de notre monde. Ensuite, au verset 4 et 5, cet enfant aura le dernier mot sur la violence et la guerre. Notre monde a connu que de rares années de paix, sans guerre. Partout, il y a des, même si en France ou en Europe, il n'y a pas de conflit armé actuellement, eh bien, il n'y a qu'à regarder un peu autour de nous, on voit sur la terre que des soulèvements, des révoltes, des guerres. Et c'est ce poison qui a commencé dans le cœur de Caïn, le premier engendré d'Adam et Ève. Voilà que un homme et une femme, même créés par Dieu, mais qui lui ont tourné le dos. Quand un homme, ils ont enfanté un fils, le premier-né, qu'est-ce qu'il réussit à faire? À tuer son frère. C'est quand même terrible. Et ça nous montre la réalité du péché, la haine, la jalousie, la méchanceté, qui peut habiter dans le cœur finalement de tout homme, de vous comme de moi. Et ce péché fait des ravages jusque dans les familles. Donc il n'y a que Dieu qui peut venir en aide à notre race humaine si éloignée de lui. Donc, Esaïe, on voit, il ne dit pas de qui cet enfant est le fils, mais il le sous-entend qu'il sera l'héritier promis au trône de David. Parce que Dieu avait fait une promesse au roi David dans 2 Samuel 7:14. Et il est dit aussi que la souveraineté sera sur son épaule. Les insignes d'une charge étaient portés sur l'épaule. On le voit encore aujourd'hui dans les soldats, dans les armées, en général les grades, les galons, c'est sur l'épaule. Et nous allons méditer maintenant sur son nom. Cet enfant en reçoit 4. 4 c'est, qui ont chacun 2 noms. Ce ne sont pas donc des noms propres, donc des titres, qui expriment la grandeur de sa personne. C'est aussi un nom prophétique. Parce que l'enfant a d'une manière éminente et grande vertu de tous les héros du peuple d'Israël. Il a la persévérance d'Abraham, l'intelligence de Joseph. Il aura aussi l'humilité par Moïse, la bravoure du roi David et la sagesse de Salomon. Toutes ces qualités, il les réunit en sa personne. Voyons tout d'abord le premier de ces titres, double. Admirable ou merveilleux conseiller. Ça dépend des traductions. Colombe a mis admirable, Darby ou la Tob ont mis merveilleux. Donc, en Esaïe, il est parlé 2 fois dans le prophète Esaïe que les conseils de l'Éternel sont admirables. Esaïe 28:29. Et il a fait des merveilles par ses projets, par ses conseils, pour sauver non seulement son peuple d'Israël, mais aussi toutes les nations dont nous sommes, vous et moi aussi. Ensuite, on voit que l'ange de l'Éternel, dans l'ancienne alliance, qui visitait les hommes, a déclaré au père de Samson, qui lui demandait des petits étonnants pour que nous puissions entrer dans la gloire, lorsque la promesse que tu viens de nous faire, c'est-à-dire cet enfant qui va naître d'un couple stérile, eh bien, cet enfant qui va naître, quand nous puissions te dire merci, te rendre gloire, et il lui dit, pourquoi demandes-tu mon nom? C'est une merveille, son nom, littéralement, c'est une merveille. Ça montre bien que le nom du Sauveur était comme caché déjà dans l'ancienne alliance, et quand le Seigneur Jésus vient sur la terre, eh bien, à travers ses miracles, à travers ce qu'il faisait, en particulier lors de la guérison d'un sourd muet, cette guérison arrache du cœur de la foule qui voit ce miracle. Ils disent, il fait tout à merveille. Il fait même entendre les sourds et parler des muets. Un sauveur merveilleux qui fait tout à merveille, capable de faire parler un sourd des muets. Il est aussi ce conseiller, et j'ai beaucoup réfléchi aussi là-dessus, sur cette question de conseiller, c'est un mot qu'on n'a pas trop l'habitude, qu'on n'utilise pas beaucoup, c'est un langage courant. Et pourquoi est-il le conseiller? Eh bien, dans Deutéronome 18, Moïse avait prophétisé, enfin plutôt, le Seigneur avait dit à Moïse, verset 15, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'un de tes frères, un prophète. Comme moi, vous l'écouterez. Vous l'écouterez, ce prophète. Et quand Jésus est venu, tous les Juifs qui attendaient le Messie savaient que Dieu allait susciter un jour un prophète comme Moïse, qui parlerait avec autorité, qui irait encore plus loin que Moïse, puisque Jésus est le Fils de Dieu. Et il fallait simplement l'écouter. Et vous vous souvenez que lors de la montagne de la Transfiguration, lorsque Jésus a pris ses 3 apôtres avec lui, il est dit, celui-ci est mon fils élu, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Un conseiller, son rôle, c'est de donner des conseils, mais nous, notre rôle, c'est d'écouter. Est-ce que nous sommes des bons écouteurs? Écoute, t'as peur, parce que ça existe, c'est bon. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il a dit conseil précieux à nous donner, le Seigneur, encore aujourd'hui. Et en effet, il a aussi en lui cette toute connaissance, cette toute science, puisque dans Ésaïe 11, comme Michel nous l'a lu aussi, il a l'esprit de l'Éternel qui repose sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de vaillance. Donc le Seigneur, si on est désemparé, si on est peut-être à un carrefour de notre vie, combien on a besoin d'un conseil. Et des fois on cherche à gauche, à droite, quelqu'un qui va nous donner le conseil, avec un C majuscule, mais est-ce que nous cherchons vraiment vers le Seigneur, dans sa parole, parmi peut-être des frères et sœurs âgés, expérimentés, ou au moins âgés dans la foi, des conseils. Demandons au Seigneur son conseil. Ses conseils aussi sont ceux de la sagesse personnifiée, qui crie dans les rues, pour lisez Proverbe 1 et Proverbe 8, il est dit que la sagesse crie dans les rues. Elle appelle les insensés, ceux qui ont perdu le sens. Et nous sommes tous de ceux-là. Ne l'oublions pas. Aux yeux de Dieu, nous avons tous perdu le sens. On a besoin de le retrouver à travers son Fils Jésus-Christ. Écoutez ses conseils pour trouver la vie, le chemin de la vie, le chemin de la vérité. Et nous aussi, quand on lit l'Évangile, on est habitué plutôt à voir Jésus comme un maître, un Seigneur qui donne des ordres, qui donne des commandements. Je vous donne un commandement nouveau, dit Jésus, aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. Mais si on réfléchit, il a aussi donné des conseils, sans forcer les hommes, en leur disant, voilà, je vous donne des conseils, comme par exemple, gérez vos biens, ne pas accumuler des fortunes sur la terre où la mythe et les voleurs dérobent, mais faites-vous un trésor dans le ciel. Voilà ce qu'il a dit à ses disciples. Conseil aussi de faire confiance à leur Père du ciel pour leurs besoins quotidiens, habillement, nourriture. Ne vous précipitez pas comme font les païens. De quoi mangerons-nous? De quoi passerons-nous au futur? Et c'est vrai qu'on est bien comme ça, c'est notre nature. Mais cherchez d'abord le royaume Père et sa justice, et toutes ces choses-là vous sont données en plus. Et puis aussi le conseil de veiller à nos relations mutuelles. Est-ce que nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal, ou est-ce que nous demandons pardon à ceux qui nous savons que nous avons offensés? Donc tout cela, c'est des conseils pour notre bonheur. Et puis finalement, on voit à la fin de la Bible, de l'Apocalypse 3, Jésus aussi qui dit à une église, cette église de Laodicée, une église tiède, qui se croit riche, il lui dit, c'est la guerre, parenthèse, c'est l'église de la fin des temps. Et comment ne pas nous reconnaître aussi un peu dans cette église? Parce que nous sommes souvent tièdes. Il lui dit, je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour voir tes yeux, afin que tu vois. Combien de fois sommes-nous pas aussi de ceux-là? Nous croyons voir, mais nous ne voyons pas comme Dieu voit. Dieu nous fasse grâce de savoir l'écouter, d'écouter ce merveilleux conseiller dans la lecture de la parole, dans la prière, dans nos partages les uns avec les autres. Dieu nous parle aussi à travers un frère, une sœur, un responsable, mais ça peut être aussi un jeune converti par lequel Dieu veut nous parler. Et nous serons émerveillés par ces merveilles. Ensuite, le Dieu puissant, autre titre, à Dieu seul appartiennent la puissance dans sa création, comme dans sa nouvelle création, dans sa grâce. On l'a vu tout à l'heure, par l'Esprit de l'Éternel, Jésus est capable d'expérimenter
et de démontrer la puissance divine sur la terre. Et ce verset, cette parole, je veux dire, indique aussi que le Messie est de qualité divine. Il est Dieu lui-même, Dieu puissant, Dieu fort, ou Dieu fort, suivant les traductions, ou héros divin, comme a traduit une traduction juive aussi. Donc, cet enfant qui va naître, ce Messie aura en lui la vaillance du roi David, la force du roi David, qui, jeune berger, il nous est dit, il combattait les lions et l'ours qui attaquaient son troupeau et il a osé défier le géant Goliath alors que toute l'armée d'Israël tremblait devant ce géant qui faisait pas loin de 3 mètres de haut. Eh bien, David a osé le combattre. Donc ce Messie, dont David est l'image, est capable de faire ces choses aussi. Et quand Jésus de Nazareth vient sur la terre, eh bien, Jean-Baptiste dit, « Celui qui vient après moi est plus puissant que moi. » Et l'apôtre Pierre aussi, dans Actes chapitre 10, a dit cette parole que je vous lis, Actes 10, 38. « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Emmanuel, Dieu avec nous, et là aussi Dieu avec lui quand il était sur la terre, Dieu lui-même agissant à travers lui avec puissance, pour délivrer les captifs. Et comment l'a-t-il montré sa puissance? Jésus, nous le savons tous. Il a chassé des démons. Il a résisté au diable dans le désert, à la tentation du diable. Il a ressuscité lui-même des personnes décédées. Il a commandé aussi au flot et à la mer de se taire. Et on peut aussi parler et penser à la puissance de son amour, de sa grâce, de son pardon, jusqu'à même ses ennemis qui lui plantaient les clous dans les mains, n'est-ce pas? Donc, c'est magnifique de savoir qu'on a un sauveur puissant et jusque dans les temps futurs. Apocalypse chapitre 5 nous dit que l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. C'est paradoxal, un agneau, c'est tout faible, c'est tout petit. Et Dieu a choisi cet agneau, cette image, pour faire reposer sa plus grande puissance qui soit, pour racheter les hommes, pour vous racheter, vous et moi. C'est merveilleux. Les voies de Dieu sont étonnantes. Il y a aussi le psaume 24, pour ceux qui prennent des notes, vous le lirez à la maison. Versets 7 à 10, il est parlé d'un roi de gloire. C'est un psaume messianique, c'est-à-dire qui annonce le Messie. Il est parlé d'un roi de excusez-moi, d'un roi de gloire, héros fort, qui doit faire son entrée. Et les portes éternelles doivent, les portails éternels doivent s'élever pour laisser passer la grandeur de ce roi. Et c'est une belle image aussi que dans nos vies, nous devons aussi lui laisser toute la place pour entrer dans nos cœurs et pour régner. Le Père éternel, maintenant. Un roi était considéré comme le père de son peuple. Et le roi divin aussi, lui, ne meurt pas. Et donc, il sera à jamais le protecteur de son peuple, de son Église. Quelle sécurité pour nous. Et quand Jésus s'est présenté sur la terre, aussi aux hommes, plusieurs fois, en particulier devant les Juifs religieux, il leur a dit « Je suis ». À 8 reprises dans l'évangile de Jean, nous avons cette expression « Je suis », qui est tout simplement la façon de dire par Jésus aux hommes. Je suis ce Dieu qui s'est révélé à votre ancêtre Moïse dans le buisson qui brûlait sans se consumer dans le désert. Vous vous rappelez cette histoire? Quel est ton nom? Dit Moïse en tremblant. Et Dieu, depuis le buisson, lui dit, je suis celui qui existe par lui-même, celui qui est éternel. Et Jésus, il s'attribue cette parole, et c'est pour ça que les Juifs ont pris des pierres pour le lapider. Il a failli se faire lapider parce qu'il a dit ça, le Seigneur. Pour eux, c'était un blasphème. Toi qui es homme, tu te fais Dieu. Mais il est Dieu. Et c'est vrai que c'était difficile à comprendre. Donc, j'aimerais lire encore avec vous un texte d'un Jean, chapitre 17, qui montre pourquoi Jésus est le Père éternel. Le Messie est appelé le Père éternel. Dans Jean 17, Jésus lève les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue ». Au verset 1, « Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Le rôle du Père éternel, c'est de transmettre la vie. Un Père, c'est celui qui engendre. Dieu désire engendrer beaucoup de fils et de filles, et à travers son Fils bien-aimé, il lui a donné ce pouvoir, cette mission sur la terre, de conférer la vie éternelle à ceux qu'il lui a donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, Père, toi, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Donc, Jésus a accompli totalement sa mission. Et c'est ça qui est extraordinaire pour que nous puissions recevoir la vie éternelle. Il est le Père d'éternité. Et quel malheur pour les Juifs religieux qui, eux, cherchaient dans les Écritures, nous dit Jésus, d'obtenir la vie éternelle et qui ne voulaient pas venir vers Jésus, l'envoyé du Père, pour avoir cette vie qu'ils recherchaient intensément dans les Écritures. Que ce ne soit pas notre cas non plus ce matin, mais que nous puissions aller à lui pour avoir la vie, sinon on ne l'a pas reçue. Et finalement, on l'appellera prince de la paix. Donc, les Israélites ont connu leur plus longue paix sous Salomon. Ils ont connu leur plus longue paix, 40 ans de paix sous le règne de Salomon. Paix des hommes, qui était de courte durée, mais est souvent superficielle, mais la paix de Dieu, c'est une paix éternelle. Et cette prophétie donc comporte plusieurs aspects dans la durée des temps. Donc la paix est venue comment? Eh bien, bien sûr, quand Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, ben, vous connaissez ce texte, je crois qu'on l'a lu dimanche dernier. Il y a eu un ange qui est venu annoncer la bonne nouvelle de la naissance du Christ Jésus. Et puis après, il y a une multitude de l'armée céleste qui sont venus renforcer cet ange. Et quand il dit, ils ont dit, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Donc, ou paix parmi les hommes, objet de sa bienveillance. Donc, si nous recevons la bienveillance du Seigneur, si les hommes reçoivent cette bienveillance, eh bien, ils ont la paix avec Dieu. C'est ce que Jésus est venu faire. Cette paix doit commencer déjà dans le secret de mon cœur avant que ça s'éteigne au monde entier. On dit oui, on veut la paix sur la terre. Ben oui, on y aspire à la paix mondiale auquel tout le monde aspire. Bien entendu, c'est une bonne aspiration, bien sûr. Mais ça doit commencer dans mon cœur, cette paix. Et nous avons besoin d'être réconciliés avec Dieu. C'est ce que nous dit aussi l'apôtre Paul dans la lettre aux Colossiens au chapitre 1, il dit, verset 19, « Il a plu à Dieu de faire habiter en lui, donc dans le Christ, toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. C'est une paix qui a coûté très cher au Seigneur. Il lui a coûté un prix énorme. Et chaque dimanche, c'est vrai, nous aimons le rappeler par le pain et le vin dont Philippe va nous parler tout à l'heure. Cette paix, elle a tout coûté à Dieu. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a pris sur lui notre condamnation. Il était l'homme de douleur. Et je peux aujourd'hui faire l'expérience de la paix avec Dieu et puis vivre maintenant dans la paix de Dieu. Ce sont deux choses. Il faut commencer par le début, avoir la paix avec Dieu, ensuite vivre pour pouvoir vivre dans la paix de Dieu. Avec lui, avec mes frères et sœurs. Donc, cette paix a plusieurs dimensions, comme vous le comprenez. Et puis, le prince de la paix, il le sera aussi lors du royaume futur dont il est parlé, lorsqu'il est venu, lorsqu'il reviendra, et j'aimerais lire avec vous dans Ésaïe 2. Un texte magnifique qui n'est pas encore accompli. C'est un texte prophétique qui parle du règne messianique. Et un jour, nous, nos yeux verront cette parole s'accomplir, comme toutes les prophéties sont déjà accomplies. Dieu ne manquera pas d'accomplir celle-ci. On va dire qu'il a commencé de l'accomplir, mais elle n'est pas terminée. Parole reçue en vision par Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera à la fin des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples nombreux s'y rendront et diront « Venez !» Et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous instruise dans ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Alors ça, on peut dire que c'est aussi... Ça a commencé depuis que Jésus est venu. Ça a commencé, mais ce n'est pas terminé, puisque il nous est dit... Il sera juge d'entre les nations. Il sera l'arbitre des peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs et de leurs lances des serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre l'autre et n'en apprendra plus la guerre. Ce texte, je le rappelle, qui est écrit à l'entrée du siège de l'ONU à New York. La question des armes qui vont être transformées en outils. Les armes de guerre vont être transformées en outils. C'est extraordinaire si on réfléchit. Mais ça n'a pas encore eu lieu, ça, vous êtes d'accord. On en est encore loin. Il y a des milliards. Enfin, les budgets des États, la plupart des États sont colossaux pour l'armement. Vous imaginez le jour où ça va être transformé en outils et qu'on cultivera les déserts. Tout sera changé. Eh bien, ce texte, un jour, se réalisera seulement par l'enfant de la promesse, seulement par ce Fils qui nous est donné. Et cette paix ne viendra pas donc des hommes, mais seulement par lui. Un jour, il y avait le roi de Prusse qui s'appelait Frédéric Guillaume, qui visitait les écoles et se plaisait à questionner les enfants. Dans une école d'un village, il leur demande en leur montrant une pierre. À quel règne appartient cette pierre ? Au règne minéral, répondent les écoliers. Et l'oiseau là-bas ? Au règne animal. Et cette rose ? Au règne végétal, répond un enfant. Et la question qui tue, et moi, mes enfants, à quel règne j'appartiens ? Silence général. Personne n'ose dire au règne animal devant le roi. Finalement, un enfant lève le doigt. Toi, répond-il, tu appartiens au règne de Dieu. Et le roi en a les larmes aux yeux. Cependant, c'est un texte du calendrier, hein, c'est pas moi qui l'invente. Je vous fais de la pub en même temps. Claire, tu auras encore du travail. et au règne de Dieu. Pour appartenir au règne de Dieu, eh bien, il faut vouloir, il faut le désirer. Est-ce que nous le voulons? Et ça sera ma conclusion. Est-ce que nous voulons de ce roi? Voulons-nous qu'il règne sur nous, ce roi? Dans une histoire racontée par Jésus, dans Luc, chapitre 19, il est question de gens qui disent « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Et c'est encore, hélas, ce que disent beaucoup aujourd'hui au Seigneur Jésus. « On ne veut pas qu'il règne sur nous. Il ne faut pas qu'il se mêle de nos affaires. Moi, je me débrouille. Je suis grand, je suis fort, je me débrouillerai. Je n'ai pas besoin de Dieu. » Si c'était le cas de quelqu'un parmi nous ce matin, eh bien qu'il sache que cette attitude va le conduire tout droit en enfer, loin de Dieu, dans le feu éternel, dans la condamnation. Mais nous pouvons encore faire grâce, recevoir la grâce, parce que Dieu fait grâce aux hommes, Dieu pardonne. Et nous pouvons changer de roi et dire, je ne veux plus que ce soit moi qui soit le roi, mais lui, le Seigneur Jésus-Christ. Et je rappelle ces titres, merveilleux conseiller, les titres de cet enfant, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Je vous propose de prier. Merci Père, Dieu notre Père, de ce que, en cette période où nous rappelons la venue de ton Fils dans le monde, eh bien, tu nous rappelles ce cadeau extraordinaire que tu as fait aux hommes et combien nous sommes riches aujourd'hui d'avoir accepté la venue de ton enfant Jésus, de ton Fils bien-aimé, le Christ, le Messie, pour nous libérer des ténèbres. Merci parce que tu as commencé de faire cette œuvre magnifique dans nos cœurs et tu veux la poursuivre jusqu'au jour où tu viendras nous chercher. Et nous te prions en effet que ton règne vienne encore dans ce monde qui a tellement besoin de toi et que nous puissions aussi nous écouter et recevoir cette parole de grâce et en vivre chaque jour. Nous t'adorons, Père. Te remercions pour ce merveilleux conseiller, ce Dieu puissant, ce Père d'éternité et ce Prince de la paix que tu nous as offert si généreusement. Oui, Seigneur Jésus, tu es digne de recevoir le règne dans nos cœurs et dans nos vies, aujourd'hui et pour toujours. Amen.